Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et encore une fois cette semaine, j'animerai cette sublime émission sur l'automobile. Hein, faut bien se donner des tapes dans le dos, nous autres même, quand personne nous en donne. Et puis pour me rejoindre cette semaine, mon ami, mon collègue, mon petit microbe ambulant, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc.
Oui mon cher, c'est du microbe solide ce matin. Je me suis levé avec le nez enchiffrené, disons. Mm-hmm. C'est beau, hein? C'est un mot que j'ai toujours aimé ça,
ouais,
enchiffrené.
Ouais.
Puis, écoute, je suis congestionné, c'est l'enfer, les yeux me coulent, le nez me coule. Alors, si vous entendez des drôles de sons tout au long de l'émission, ça se peut que ce soit mes chiens comme ça vient de le faire. Ça se peut que ce soit moi, parce qu'effectivement, j'ai tendance à avoir un petit peu de difficulté à respirer par le nez actuellement.
Ben oui, mais tu sais, ça va t'apprendre à coucher face à l'air aussi. Donc, Marc, à partir de ce soir, hein, commence à t'habiller pour faire dodo. Bon, donc cette semaine, on va commencer avec des nouvelles.
T'es-tu rendu toute mal de ma vie personnelle?
Ben là, mais j'essaie juste que tu ne sois pas malade. C'est juste ça que je veux. Je veux ton bien.
Ben oui, c'est ça, tu veux mon bien, tu vas l'avoir, c'est ça?
Ouais, non, je suis pas le gouvernement encore. Pas l'intention de me présenter en politique, garde ton bien. Bon, cette semaine, on va avoir un bloc nouvelle pour commencer, puis ensuite, on va parler d'essais de véhicules. Marc va nous parler d'une voiture de pauvre, là, Audi R8, je pense que ça s'appelle.
Et puis, exactement.
Ouais, et puis moi, je vais vous parler d'une voiture intéressante, mais pas mal moins cher que la R8 de marque, la MX-5 RF, donc qui est la version à toit rigide de la Mazda MX-5. Donc, pour commencer, Marc, on va y aller avec des nouvelles, et puis j'ai une pensée, vraiment, genre, je t'envoie des ondes positives pour que tu sois capable de passer à travers ça avec ta grippe, là. Vas-y, mon
ami. Non, quand même, il n'y a pas trop de problèmes, là. Okay. Écoute, un bulletin de nouvelles ne saurait jamais être complet sans un petit peu d'Elon Musk.
Oui.
Et M. Musk, je pense qu'il ne file pas, Elon.
Ça,
sincèrement, je pense qu'il ne file pas. On connaît toute l'histoire, la saga récente, là, où il a écrit publiquement qu'il savait, il avait trouvé de l'argent. Bon, finalement, il a décidé qu'il n'avait plus trouvé d'argent, qu'il était pour rester public. Bon, là, l'action de Tesla baisse, est rendue en bas de 300$. Et là, cette semaine, M. Musk a ramené quelque chose qu'on pensait complètement oublier. Tu te rappelles quand il avait traité le sauveteur thaïlandais ou thaï de pédophile?
Oui, j'avais vu ça passer, oui.
Bon, mais cette semaine, ce qu'il est allé dire, c'est, écoutez, après tout ça, je comprends pas pourquoi il m'a pas poursuivi.
OK. Peut-être qu'il a donné une idée.
Ouais, je suis pas sûr que c'était nécessaire.
Non.
Je pense que c'est de ramener un problème qui était réglé sur le devant de l'actualité. Je trouve ça très particulier, surtout, et j'ai beaucoup ri, qu'il y a un avocat qui a répondu dans les 15 minutes suivantes en disant « M. Musk devrait aller voir ses emails parce qu'effectivement, il a une poursuite sur le dos du monsieur en question, qui date du 6 août. »
OK, donc ouais, faudrait peut-être qu'il regarde ses courriels de temps en temps.
C'est ça. Fait que, honnêtement, je ne comprends pas. Le gros problème, en fait, c'est que ça affecte évidemment Tesla, ça affecte évidemment la réputation de l'entreprise et la valeur du titre. Ces espèces de crises-là d'Elon Musk à la Donald Trump, mais en moins bien orchestrées. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment qu'il se passe quelque chose chez Tesla parce que là, ça ne fonctionnera plus. Et c'est dommage parce que la compagnie a commencé à produire de façon peut-être plus intéressante. Je ne parlerai pas de qualité, je ne parlerai pas de prix, je ne parlerai pas de tout ça, là, mais tu sais, au moins au niveau du rythme de production, on a atteint un certain niveau. Et là, si Elon Musk va lancer des trucs comme ça, je pense que le conseil d'administration n'aura pas d'autre choix que de se, mettons, de le mettre un peu en vacances pour quelques semaines.
Ouais, il va se faire Steve Jobsé.
C'est ça. Mais la question, c'est à partir de là, dans une compagnie comme Tesla, tu sais, quand ils ont tassé Steve Jobs, ils ont fini par le ramener.
Oui,
c'est pas
le choix.
C'est ça. Mais je ne sais pas ce qui va se passer avec une compagnie comme Tesla, dont les analystes continuent de dire qu'elle ne passera pas l'année, là. Tu sais, il y a eu un rapport financier la semaine passée qui disait que Tesla avait en banque 1,5 milliard de dollars et qu'elle doit payer d'ici la fin de l'année 1,5 milliard de dollars en intérêt.
Donc, il ne te reste plus grand-chose. Ouais.
Fait que ça veut dire que tu n'as plus rien, là. Ça veut dire que tu n'as plus de liquidité zéro, là.
Ouais.
Et là, si l'action baisse, ben là, évidemment, il y aura de moins en moins d'investisseurs. Bref, c'est une histoire un peu compliquée. Je trouve ça extrêmement dommage que pour le moment, ça s'en aille dans ce sens-là pour Tesla. Ça n'a rien à voir avec la qualité des véhicules. Ça a à voir avec un homme qui, je pense, est allé peut-être au bout de ses limites. Et malheureusement, ça affecte bien les gens.
Ouais, mais je commence à voir plus en plus de Tesla 3 sur la route. J'en ai croisé quelques-unes. Donc, même au Québec, ça commence à rentrer. Là.
Oui. Comme je te dis, ils ont atteint un rythme de production qui a quand même plus d'intérêt. Mais tu sais, ils ont dû remettre cette année 920 millions de dollars en dépôt, semble-t-il, de gens qui ont annulé leur commande.
Oui, parce qu'ils ne veulent pas attendre.
Puis, c'est ça. Puis avec la venue de compétiteurs qui vont être sérieux, on a annoncé, entre autres, officiellement au cours des derniers jours, l'autonomie du Kia, du Hyundai Kona électrique à 425 km.
Ouais, il faudrait juste que Hyundai se décide à donner un prix à un moment donné parce que les gens commencent à attendre juste après ça là, pour voir s'ils commandent ou pas. Là.
Ouais, mais tu sais, ça va être d'ici la fin de l'année qu'il va être produit. Puis bon, c'est Hyundai, fait, excuse-moi de te dire que ça devrait être vrai d'ici la fin de l'année.
Oui.
Alors, c'est ça. Alors, tu sais, on parle d'un prix qui va être égal ou inférieur à celui de la Bolt.
Oui. Fait que ça commence à avoir de l'allure, là.
Tu sais, là, ça commence à devenir sérieux. Fait que Tesla va se retrouver avec des compétiteurs, avec un dirigeant qui n'est pas tout à fait au pic de ses capacités. C'est pas le fun pour la compagnie, honnêtement. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. En tout cas, bref, on verra.
Ouais.
Sur des notes plus réjouissantes, j'espère que tu as commandé ta nouvelle Ford GT.
Ben, pas du tout. Il n'y a pas une liste de préférentiels. Il faut que tu sois approuvé par Ford et la patente. Je ne pense, pense pas que je suis là-dedans.
Ouais, puis ça va être encore pire parce qu'ils viennent d'annoncer qu'ils étaient pour produire une édition limitée de la Ford GT qui est déjà elle-même assez limitée.
Ouais, fait que l'édition limitée va aller à des gens qui ont déjà probablement une Ford GT dans
leur
garage.
Probablement.
Ouais.
Et c'est une Ford GT héritage Golf. Golf, là, GULF. Là.
Ouais.
La fameuse couleur bleue et orange que l'on connaît.
Mm-hmm. Ouais, la chaîne de station-service Golf qui n'existe plus ici, là, mais qui existe encore aux États-Unis. Là.
Et qui appartient maintenant à une propriété indienne. Hein.
Ouais, c'est ça. Okay.
C'est plus américain, mais en tout cas, sauf que ça a été associé au sport motorisé depuis des décennies, là, à toutes sortes de... Notamment aux victoires de la Ford GT en 1968 et 1969.
Ouais.
Donc, c'est pour souligner ce 50e anniversaire-là que Ford va sortir la GT Golf Héritage à ces couleurs-là. La première année, donc pour 2019, mais ils vont la sortir cette année, c'est la Golf numéro 9 qui va sortir parce que c'est la numéro qu'elle portait lors de sa victoire en 68.
Okay.
Et l'an prochain, l'édition illimitée va porter le numéro 6 parce que c'est le numéro qu'elle portait lors de sa victoire en 1969.
OK. Fait qu'on va faire quelques-unes pour les deux années, puis après ça, ça va être merci, bonsoir. Un peu comme ils faisaient avec la Boss 302, des choses comme ça. Deux ans de production, après ça, on enlève ça. Fait que dépêche-toi si t'en veux une.
Comme on va faire pour la Bullitt, hein?
Ouais, comme on va faire avec la Bullitt. La Bullitt, c'était pareil aussi dans la dernière génération. C'était 2008-2009, noir et vert. Là, ça va être la même chose. 2018-2019, noir et vert, puis... T'achètes-toi-en une quand t'en veux une. Mais au moins, il n'y a pas de limite sur la Bullitt. Tandis qu'il y avait une limite sur la Ford GT, ben un, c'est le prix de quelques Bullitt. En plus, ça va être limité en quantité. Mais bon.
Effectivement.
Devenir une voiture de collection, mais c'est une belle voiture.
Oui, c'est une belle voiture. Là. C'est vraiment magnifique.
Ouais.
Cette semaine, ça déroule en Californie, le fameux concours d'élégance de Pebble Beach.
Mm-hmm.
Pebble Beach, où sont présentées des voitures absolument spectaculaires. Là. Il y a vraiment des autos incroyables.
Ouais, faut que tu vendes ta maison, tes deux reins et ton premier-né pour être capable d'acheter une voiture là-bas. Là.
Ben, nous autres, oui, mais
ouais,
les gens
c'est ça. Les gens qui sont là, c'est comme ça qui change. Mais pour nous autres, c'est comme...
Mais ce qui est intéressant, c'est que les manufacturiers en profitent aussi pour présenter certains de leurs modèles de leurs nouveautés. Infiniti, entre autres, a présenté un prototype, le prototype 10. L'année passée, il avait présenté le prototype 9. Alors, comme on voit, il y a une espèce de suite logique.
Au moins, on s'est compté.
C'est ça. Ouais. Sauf qu'on nous avait annoncé un prototype qui était pour être la nouvelle génération de design d'Infiniti, que c'était pour nous indiquer des nouvelles lignes de style et tout. Honnêtement, si vous regardez les photos, là, si vous trouvez quelque chose qui a l'air d'une auto de production là-dedans, vous me le direz. Parce que c'est un pur prototype dans toute la signification du mot. Ça sera jamais produit d'aucune façon. Il n'y a aucune façon que ça puisse ressembler à un char. On n'a pas voulu montrer l'intérieur et on ne sait pas quelle sorte de moteur il y a en dessous.
Il n'a peut-être pas voulu montrer l'intérieur parce qu'il n'y a peut-être même pas d'intérieur.
Ben, en fait, il a fallu quand même qu'il l'amène sur place. Là.
Ouais, mais des fois, c'est tiré ou c'est poussé, c'est même pas conduit. Là. Des fois, à l'intérieur, il n'y a rien ou c'est tellement ordinaire que tu sais, ça vaut pas la peine d'être montré. Souvent, c'est l'extérieur qu'ils veulent montrer. Puis oui, c'est un peu dommage qu'on... Tu sais, oui, c'est des exercices de style, mais on sait tous que ça aura jamais l'air de ça, là, tu sais.
Ah ben non, mais là, c'est particulier, là. Là, c'est vraiment... Tu sais, l'année passée, ils rendaient hommage à la Silverado de Mercedes, qui était la Formule 1, tu sais.
Mm-hmm.
Parce qu'ils disaient, OK, il y avait une certaine justification à faire un char de course, mais là, cette année, c'est une espèce de mélange entre un char de course, une soucoupe volante, toujours silver, bien sûr, là, toujours argent. Oh. C'est beau, là. Je te dis pas que c'est laid, mais c'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on s'attendait. On peut quand même penser à des gens qui, eux, ont fait d'autres choses que ça. Je pense à BMW, entre autres, qui a profité du même concours qu'Infiniti pour nous présenter la fameuse Z4 qu'on attendait depuis longtemps.
Mm-hmm. Oui, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été renouvelée, la Z4, puis pourtant, c'est,
mais en fait,
c'est une belle voiture. Là.
Mais là, elle l'est. On nous a présenté la nouvelle génération de la Z4 qui est, en fait, développée en collaboration avec Toyota parce que c'est la base de la nouvelle Supra.
Oui, OK. Oui.
Alors, on est sur la même plateforme. Sauf que BMW va avoir la version cabriolet, alors que Toyota va nous présenter la version coupée. Donc, ce ne sera pas du tout la carrosserie. Là. On ne parle pas du tout de la même chose, mais on a vu ce que BMW nous a donné. Ce qu'on nous dit, entre autres, c'est un toit souple, un rapport de masse de 50-50, donc vraiment un équilibre parfait. On ne sait pas trop quel genre de mécanique il va y avoir. On pense qu'il va y avoir un 6 cylindres 3 litres turbo et un 4 cylindres turbo comme moteur de base, mais on n'a pas eu d'autres nouvelles. On attend toujours de voir ce qui va se passer avec ça.
Dans ma souvenance, il me semble que la Supra est plus grosse qu'une Z4, mais c'est une plateforme qui est, j'imagine, qui peut évoluer en grosseur dépendant de ce qu'on met dessus. Faire une Supra plus petite.
C'est ce qui se passe maintenant. Hein. On partage des plateformes.
C'est ça. Mais ça coûte moins cher. Là.
Exactement.
OK.
Deux petites nouvelles en terminant. Faraday, tu connais Faraday?
Ouais, la compagnie qui a faillité.
Ouais, ben, ils n'ont pas faillité. Ils ont failli,
c'est ça.
Ils ont juste failli nous présenter des modèles. Mais là, ils présentent encore une fois, en Californie, un modèle de la FF91.
OK.
Une espèce de... Quand tu la regardes, ça a l'air d'un mélange entre un Ford Edge et un Toyota Venza, quelque chose comme ça. En tout cas, bref, c'est un véhicule 100% électrique, bien entendu. Mais là, on nous dit que c'est la pré-production. Et que cette espèce de multisegment-là va être disponible à partir de 2019.
OK. Mais la voiture qu'il avait annoncée, la Faraday Future, es-tu disponible, elle, ou?
Non. Il n'y a pas eu aucune voiture qui a été disponible.
OK, donc c'est comme on efface, mais on recommence.
C'est ça. Tu parles de la FF1, là, la Faraday Future 1.
Ouais.
Mais là, c'est la FF91
okay.
qu'on nous présente, qui est le multisegment.
Ouais.
Écoute, on dit 482 km d'autonomie sur une seule charge.
Okay.
0-100 en bas de 3 secondes.
Ouais.
Quand même. Un modèle de base avec deux moteurs électriques 716 HP.
Ouais.
Si tu veux, tu peux avoir une option avec trois moteurs électriques pour 1074 HP.
Okay.
Mais évidemment, on dit aussi que c'est le plus... il appelle ça Intelligent Robotic Vehicle. Donc, un véhicule robotisé intelligent. Ouais. Moi, je vais attendre de mettre la main sur un porte-clé Faraday avant, OK? Avec une clé ou de préférence.
Oui, c'est ça, parce que j'ai comme l'impression que c'est un beau concept, mais ça verra probablement jamais le jour comme la voiture n'a jamais vu le jour. Là.
Exactement.
Mais quoique dans le marché du VUS, il y a un plus grand marché dans le marché du VUS que dans le marché de la voiture. Fait que ça,
le problème, c'est pas le marché, le problème, c'est la fabrication.
Oui, c'est ça, mais ça serait quand même un choix logique d'aller avec un VUS plutôt que d'y aller avec une voiture, mais...
Ah, d'accord, mais la logique et la réalisation, quand on arrive dans le secteur manufacturier, c'est un autre débat, là.
Ouais, puis la logique aurait été de commencer avec ça, pas de faire presque faillite avec ta voiture pour décider, « Hey, en passant, là, allez-vous-en pas, là, regardez, on a d'autres choses.
Ouais. » Mais en fait, ils n'ont pas fait faillite, c'est juste le problème.
Ça a juste pas marché.
Le problème, c'est que... Ouais, le problème, puis tu sais, c'est que tout le monde se mettait en doute un peu la provenance des fonds de l'entreprise.
Ouais, c'est plus le cas.
On n'en parle plus.
Ouais, c'est ça. C'est tant qu'à creuser, on aime autant plus en parler. Ouais, c'est ça.
J'aime mieux pas le savoir. Tu sais.
Okay.
Ça fait moins mal quand tu le sais pas.
C'est bon.
Et enfin, une dernière, et ça, c'est probablement ma nouvelle préférée de la semaine.
Bon.
Ça s'est passé dans une foire qui s'appelle Army 2018 à l'aérodrome de Kubinka en Russie,
okay.
pas loin de Moscou. Et c'est Kalachnikov. Tu connais la compagnie Kalachnikov?
Oui, ils font des armes.
Ils font de AK-47, entre autres, qui est la arme dont tout le monde parle. Eh bien, ils ont présenté la Kalachnikov CV1.
Oui, qui est une voiture basée sur une ancienne voiture russe, là.
Oui, qui est une voiture électrique, qui est là, dit-on, pour concurrencer la Tesla Model 3.
Oui, pas dans son design, par exemple, mais oui.
Non, c'est sûr que ça s'inspire de... ça s'appelle le Isadash 2125 Combi, une photo qu'une vieille voiture lancée en 1973, en fait, en Russie.
Mettons que ça ressemble à une Lada repimpée.
Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Mais là, on dit que, bon, la CV1 aurait une batterie de 90 kWh, 350 km d'autonomie, 0-100 en 6 secondes, une petite carrosserie très légère. On parle de 50 kg uniquement pour la carrosserie. Bref, on dit que c'est une voiture donc qui pourrait concurrencer Tesla dans son parce que ce serait une voiture abordable, électrique, avec beaucoup d'autonomie.
Tu pèses sur un piton, tu as deux mitraillettes qui sortent de chaque côté. C'est la voiture de James Bond, finalement.
Ça, il n'en parle pas. Je suis un peu déçu parce que quand tu regardes le design, il y a comme une espèce de trappe sur le dessus qui s'ouvre. Moi, je pensais voir sortir deux canons, mais j'en ai pas vu. En tout cas, ceci étant dit, je te signale qu'ils n'ont pas non plus parlé ni de prix, ni de date de lancement, ni même de capacité de production. Ça semble plus être un stunt.
Quel marché aussi va être visé? Je suis pas sûr qu'on va voir ça au Canada demain matin. Là.
Non, mais à mon avis, c'est plus un stunt publicitaire. Là. Je trouve ça quand même très, très drôle comme idée. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien drôle.
Oui. Non, puis c'est pas affreux comme voiture. Ben, c'est pas affreux. Faut aimer le style. Là. Ça a l'air d'une vieille voiture carrée, là. Mais faut aimer le style. Les phares en avant sont quand même intéressants. C'est des phares au Dell, je pense, des choses comme ça.
Oui, non, c'est sûr qu'ils ont mis des technologies modernes, là, mais tu sais, on s'entend pour dire qu'on n'est pas du tout là-dedans.
Non.
Tu sais, écoute, c'est... En tout cas, moi, ça m'a fait bien rire. C'est là ta mort, en plus. Là, c'est bleu, Paul. Le prototype qu'ils nous ont présenté, c'est un bleu, Paul. C'est d'une odeur épouvantable. Mais, que veux-tu, c'est une voiture... Faites par Kalachnikov, j'irai pas leur dire en pleine face.
Non, t'es mieux de te retenir peut-être un peu. Non, c'est bon, Marc, donc on va faire une pause, mais on va revenir avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour, et Marc, c'est l'heure du dernier bloc pour cette semaine, notre bloc essai. Et tu vas nous parler d'une voiture abordable, familiale, spacieuse, la Audi R8.
Ouais, et je te préviens qu'à partir de maintenant et pour les prochaines minutes, toute critique négative sera... totalement irrecevable.
OK. Fait que faut que je coupe ça au montage. Si jamais je dis une vacherie, faut que je la coupe au montage.
Non, je vais me mettre à chanter. Je te le dis, là. C'est pas compliqué.
Je vais m'abstenir de dire des vacheries d'abord. Écoute, j'aime trop nos auditeurs, puis on n'a pas le moyen d'en perdre. Je vais m'abstenir.
Surtout avec le nez enrhumé, je te dis que ça ferait une interprétation incroyable. Mais sérieusement, il faut que je te dise que je suis profondément en amour avec la Audi R8. Je le suis depuis le début. Ouais. Et là, elle a été un peu modifiée l'année passée. C'est une voiture absolument exceptionnelle. En plus, moi, j'avais la version Spider, donc la version cabriolet, ce qui explique peut-être d'ailleurs mon rhume, là, même si il faisait quand même relativement chaud.
Ouais.
Mais c'est vraiment une voiture absolument spectaculaire à tous les niveaux.
Ouais, c'est une belle voiture.
Elle est belle en termes de look. Elle est performante, elle est puissante, elle est confortable. L'intérieur, c'est typiquement Audi avec les sièges que l'on peut ajuster dans toutes les directions que tu peux t'imaginer. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'écran central dans la Audi R8. Hein.
OK.
Donc, l'écran, c'est vraiment le cockpit virtuel devant toi. Dans la console centrale, il y a des trucs que tu peux changer, mais tout l'affichage se fait directement devant toi.
OK.
Donc, ton passager ne voit pas de radio et ne voit rien de ça. Là. C'est toi qui as toutes tes commandes.
C'est toi qui as le contrôle.
Ouais. Ceci étant dit, ça fait quand même une voiture absolument spectaculaire en conduite. Écoute, il faut dire que maintenant, bon, la R8 Spider est vendue avec un V10 de 5,2 litres, 540 chevaux, à peu près 400 livres-pieds de couple. On parle de 398, 399 livres-pieds de couple.
Ouais, c'est le moteur emprunté de chez Lamborghini, c'est ça?
Exactement, exactement. Et c'est une voiture qui est, écoute, ça se peut pas être agréable dans même. C'est une voiture à traction intégrale, hein, on va le dire. Même si c'est pas le genre d'auto que je traînerais en hiver. Là.
Ouais, j'imagine que non, mais ça pourrait se faire, j'imagine, tu sais, première neige, là, pas dans une grosse tempête, mais peut-être c'est première neige, ça doit pas être si pire que ça. Mais...
La toute première fois que j'ai conduit la Audi R8, c'était au début de décembre, et on a reçu 10 cm de neige.
OK.
Alors, c'est puis comme il fallait que je la rapporte à Montréal de la rive sud, c'est moi qui ai fait la charrue.
Et je vais me rappeler
de cette expérience-là toute ma vie parce que ça a coïncidé. Puis écoute, demande-moi pas pourquoi, mais quand je suis arrivé dans le tunnel Hippolyte Lafontaine, j'étais un peu coincé dans le trafic. Devant moi, il y avait un gros SUV noir. Derrière moi, il y avait un gros SUV noir. Puis moi, j'étais dans le milieu avec ma petite R8. Et les gens me regardaient puis ils devaient penser que j'étais un mafieux qui s'en allait se faire conduire quelque part.
Avec deux VUS noirs, ouais, c'est vrai. Hein?
Écoute, les gens me regardaient, puis ils regardaient les deux autres autos, c'était très drôle. Mais bref, tout ça pour dire qu'évidemment, depuis, la voiture a changé. Elle est, écoute, je sais pas comment te dire ça, c'est tellement le fun de jouer avec cette voiture-là à tous les niveaux. C'est une auto que tu peux, qui va te donner toutes les sensations de conduite que tu peux t'imaginer. Bien sûr, c'est une cabriolet, donc tu as le plaisir de conduire les cheveux au vent, mais c'est une auto avec bon, moteur central, donc tu as la sonorité qui vient avec toi. Si tu veux pas avoir les cheveux au vent, mais tu veux quand même avoir le son, tu peux abaisser juste la petite fenêtre derrière toi.
Okay.
C'est vraiment incroyable, la sonorité de ça. C'est spectaculaire, rien de moins. Évidemment, c'est d'une puissance super le fun. C'est surtout, c'est étonnant, boîte de vitesse, 7 vitesses automatiques.
Okay.
Alors que dans les autres, on est rendu qu'on les multiplie, on va être rendu à 22, ce sera pas long, ça va être pire qu'un BC Capédale. Mais là, on a vraiment 7 vitesses, mais des vitesses tellement bien étagées qui répondent avec une rapidité incroyable. Bien sûr, tu peux modifier le mode de conduite avec le Drive Select qui est soit confortable, soit automatique, soit dynamique. Tu peux vraiment passer là du mode confort au mode dynamique dans le temps de le dire. Et ça affecte définitivement à la fois la direction, les suspensions, la réponse du moteur. Alors là, tu es vraiment, vraiment là au volant d'une machine pointue qui te permet de vraiment d'aller bien au-delà de mes limites, je te dirais.
OK. Tu parles d'embrayage, c'est une double embrayage?
Non.
Non, c'est juste une transmission à 7 vitesses normale. OK.
Bon. Exactement. Normal, non, c'est bon. La vitesse. C'est la version sportive, mais c'est pas de double embrayage.
Oh, ouais. OK, c'est bon.
Et c'est vraiment. C'est la même plateforme, tu l'as dit, que la Lamborghini Huracan.
Mm-hmm.
Puis, bon, bien sûr, la Lamborghini est un peu plus puissante, mais dans l'ensemble, c'est pas mal la même chose. Évidemment, écoute, il y a toutes sortes d'options de tous les genres, de tous les styles. C'est une voiture allemande. Donc, c'est 198 000 $ de base, mais j'ai l'impression que le catalogue d'options est plus épais que l'annuaire de Montréal. Tu sais, bon, t'as des freins en céramique que tu peux rajouter qui valent à peu près 12 000 $. Les trucs en fibre de carbone pour la carrosserie qui sont 5-6 000 $. Moi, j'avais la chaîne audio Bang & Olufsen qui vaut comme 3 000 $. Tu sais, là, c'est tout est optionnel là-dessus, mais c'est une voiture qui, quand t'as les moyens, te rend bien tout ce plaisir de conduite-là. C'est incroyable. Évidemment, les sièges sont confortables, t'apportent un support spectaculaire.
OK, ouais, j'espère.
Peu importe ce que tu fais, peu importe le sens où tu t'en vas, c'est vraiment une auto qui te tient en place, qui t'as l'impression d'être sanglé à l'intérieur. Si tu décides d'y aller plus mollo, plus relax, ben c'est quand même le fun. Et tu peux le faire gentiment et tu peux enlever le toit, 20 secondes, c'est réglé, t'as le toit à l'air.
OK.
Écoute, bon, elle a quand même quelques petits défauts, outre son prix, évidemment, qui dans mon cas est un assez gros défaut. Elle a aussi un prix, un espace de chargement qui est excessivement limité. On parle de 112 litres d'espace dans le coffre avant. Ça veut dire que tu amènes un carry-on, mais tu vas pas faire l'épicerie, là.
Non, c'est ça. Tu choisis ce que tu vas aller acheter cette journée-là. Là.
C'est ça. Tu vas marcher tous les jours, c'est la seule façon de t'en sortir.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est vraiment un espace de chargement limité. Consommation, bien évidemment, on parle d'une consommation qui tourne aux alentours de 14 litres au 100 dans ce que j'ai fait, en étant poli avec la voiture. C'est quand même bien assez, je te dirais. Mais c'est quand même une grosse voiture. Hein. On parle d'une auto qui fait 175 pouces de long à peu près.
Oui, c'est pas petit, là.
Non, vraiment pas. Là. Les gens s'imaginent que c'est une petite voiture, mais tu sais, c'est assez gros, c'est assez imposant. La silhouette est incroyable. Bref, honnêtement, je n'ai que des qualités, mais je dois dire dès le départ que j'étais pas très objectif parce que dès le départ, c'est une voiture avec laquelle je suis en amour. Fait que c'est sûr que prendre le volant de cette auto-là, c'est juste en soi quelque chose de spectaculaire et j'ai adoré.
Mais ça va avec le reste de... Ça va avec ce que t'aimes, c'est que t'aimes les choses chères. T'sais. Chaque fois que tu me demandes un cadeau, c'est une voiture qui est dispendieuse et tout ça. Donc, je suis vraiment pas surpris que tu sois en amour avec cette voiture-là. Là. C'est comme ça va. T'es conséquent.
Peut... Non, on se calme. Je veux dire, c'est juste que je ne demande pas des choses chères, je demande juste des choses de qualité.
Ouais, normalement, ça va ensemble. Ça. Qualité égale bon, chère. À date, toutes les voitures que tu m'as demandé, t'es au-dessus de 200 000 $. Fait que...
bon. Mais c'est parce que je sais quel moyen t'as.
Ouais, oui, c'est ça. Si tu savais vraiment les moyens que j'avais, tu m'enverrais magasiner au dollar.
Un gars s'essaye.
Oui, il peut s'essayer tant qu'il veut, ouais.
Sauf que toi, tu es allé justement dans quelque chose d'un peu plus Ben, quoique pour le modèle, c'est quand même assez cher.
Ouais.
T'étais plus raisonnable un peu, là.
Oui, il faut le dire. J'étais au volant de la Mazda MX-5 RF, comme je disais en début d'émission. C'est la version à toit rigide de la Mazda MX-5. Voiture qui, vraiment, là, attire les regards parce que c'est une voiture qui est vraiment magnifique. Fait que les gens la regardent. Les gens ont l'air à se demander un peu c'est quoi parce que normalement, c'est pas le design qu'on était habitué de la MX-5 hein, ou de la Miata, là, qui était plus rondelette, qui était toujours un toit totalement amovible. Donc, normalement, c'était vraiment un convertible. Il n'y avait plus de toit, puis toute l'arrière était ouvert. Cette voiture-là, c'est pas ça. Puis même, je me suis fait poser une question. À un moment donné, j'étais allé magasiner à quelque part, puis je rembarque dans la voiture, puis là, j'ai dit « Ah, est-ce que je peux te poser une question? » Tu sais, le toit, comment ça fonctionne? Là, tu l'as, comme là, tu as juste comme un toit targa, mais est-ce que tu peux enlever toute l'arrière? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'arrière reste fixe. Là, c'est vraiment une version plus targa qu'un convertible complet. Là. Fait que c'est vraiment comme la partie du milieu. C'est un peu comme si on a ceux qui se rappellent ce qu'on appelait les T-top. Là. C'est un peu comme un T-top, mais pas de bord au milieu. Fait que c'est vraiment un toit targa comme Porsche avait dans le temps et tout ça, là, où tu l'enlevais manuellement, puis tu le mettais dans ta valise, puis tu n'avais plus de place pour rien faire. Mais là, c'est tout un système électrique qui soulève, l'arrière se soulève, le toit s'enlève, va s'insérer en dessous, puis là, ça se referme. Mais c'est vraiment pas un vrai convertible comme on peut l'avoir dans la version à toit souple, où tu enlèves le toit complètement, puis là, t'as vraiment, t'sais, toute l'arrière est ouverte. C'est complètement différent. Mais c'est une voiture qui est vraiment dans son design. Là. C'est vraiment magnifique. Juste la façon qu'ils ont fait le design de l'arrière, là, la partie justement qui se soulève, où le toit va aller se cacher en dessous, puis tout ça, c'est magnifique comment c'est fait. Là. Il y a comme les deux piliers qui sortent plus en arrière, puis la fenêtre est insérée à l'intérieur. Fait que ça donne vraiment un look incroyable à la voiture. Là. C'est vraiment, vraiment joli. Puis c'est drôle parce que normalement, une voiture décapotable, c'est beau le toit ouvert, mais tu sais, quand le toit est fermé, c'est comme. C'est plus ordinaire. Là. C'est moins joli parce qu'un toit souple, c'est pas la plus belle chose. Ça, c'est pas rond. Puis c'est. Souvent, la couleur est un peu différente. T'sais, même si c'est une voiture noire, le toit est noir, c'est un peu différent de la couleur de l'auto. Fait que c'est pas super beau. Mais cette voiture-là, c'est totalement le contraire. Elle est aussi belle avec le toit fermé qu'avec le toit ouvert.
Oui, non, effectivement. Puis même, je te dirais qu'elle est plus belle. Moi, je l'aime mieux avec le toit fermé parce que ça lui donne une allure encore plus dynamique, encore plus sportive.
Oui, ouais, ça a vraiment l'air de plus en plus d'un vrai petit roadster, des roadsters anglais. Là. Cette voiture-là est vraiment magnifique. Dans la conduite, ben c'est une MX-5 dans l'âme, donc c'est pas hyper puissant, pas super rapide sur le 0-100, même quoique moi j'avais la version manuelle, puis si tu sais manier le levier de vitesse, t'es capable d'avoir des accélérations assez intéressantes. J'ai amené mon gars faire un tour dans des petites routes sinueuses dans le coin, là, puis je faisais des accélérations assez poussées, puis mon gars avait le sourire aux lèvres.
Ouais, mais en fait, ce qui se passe avec la MX-5, peu importe la déclinaison que tu prends, c'est que c'est une auto qui te donne tellement de sensations de conduite que ouais, t'es même pas obligé d'aller vite.
Non. Non, puis moi, les limites de vitesse dans mon coin, c'est 80 km/h sur les petites routes. Puis je dépassais pas ça, là, puis on avait du plaisir comme des petits fous. Là.
C'est ça, exactement. Puis c'est vraiment une voiture qui est faite pour ça. Ouais. C'est sûr que la RF est un peu plus lourde.
Ouais.
T'as pas une grosse différence. Tu le sens surtout en conduite dynamique, là, quand tu prends des virages. T'as un petit peu plus de lourdeur dans l'ensemble, mais c'est pas... On n'est pas vraiment dans quelque chose d'exceptionnellement difficile. Là.
Non, mais tu vas t'en apercevoir si tu conduis peut-être les deux, une après l'autre. T'sais. Mais si tu conduis juste la RF, tu t'en apercevras pas nécessairement qu'elle est un peu plus lourde. Là.
Non, effectivement. Effectivement.
Mais c'est une voiture qui est quand même dynamique. Là, avec une boîte manuelle, si vous pouvez vous permettre ce genre de voiture-là, puis vous êtes capable de vivre avec une boîte manuelle, ramassez-vous une boîte manuelle. Parce que c'est tellement plus agréable de ce type de voiture-là d'être capable de gérer à quel rapport on veut être. T'sais. C'est pas tout le monde qui veut ou qui est capable de conduire manuel. Puis surtout, si vous faites du travail, vous êtes souvent dans les embouteillages, une boîte manuelle, c'est un peu une épine dans le pied. Mais quand vous utilisez la voiture pour ce qu'elle de la manière qu'elle devrait être utilisée, ça veut dire des promenades en campagne, puis ça, une boîte manuelle, c'est magnifique, là, c'est super. Là.
Ça demeure un gros jouet, là, on va
c'est,
se dire
c'est une bébelle.
C'est une bébelle. T'sais, c'est sûr que c'est pas très puissant, c'est pas bon, mais c'est sûr que 2019, moi je vais essayer au cours des prochains jours la version 2019 justement de la même voiture, parce qu'elle arrive maintenant chez les concessionnaires, et elle est un peu plus puissante. On lui a donné 20 quelques chevaux de plus, on a modifié certaines autres affaires, donc j'ai bien hâte de voir c'est quoi la différence. T'sais.
Mais c'est oui, un petit peu plus puissant, c'est correct. Ce que ça prendrait, c'est un petit peu plus de couple. Comme on dit pour les Subaru BRZ puis la Toyota GT, c'est un petit peu plus de couple. On demande pas plus de puissance nécessairement. On demande juste une petite affaire plus de couple pour que les accélérations soient un petit peu plus grisantes, t'sais, qu'il y ait un petit peu plus de oomph quand on fait du 0-100 ou quand on fait des accélérations puis des reprises, tout ça. Mais pour le reste, je veux dire, c'est pas une voiture qui est problématique. Moi, ça m'a jamais dérangé autant dans la BRZ que dans la Toyota GT ou la Sion FRS dans le temps ou dans la MX-5 qu'on n'ait pas tant de puissance que ça parce que c'est pas fait pour ça. C'est pas des voitures de course, quoique on peut faire de la course avec ça en autant qu'on a toutes les mêmes voitures sur la piste, là. Ça,
Ouais, c'est ça.
c'est super amusant. Ça doit être super amusant à conduire sur une piste aussi, là. Mais, tu sais, faut voir que c'est pas une voiture qui est faite pour faire de la course puis être rapide, c'est une voiture qui est faite pour être amusante à conduire, peu importe
Effectivement.
où vous la conduisez. Les prix, c'est sûr, certains, là, on parle de, tu sais, si on va chercher une MX-5 tu sais, RF de base, c'est pas la RF, c'est-tu la RF? Attends un petit peu, j'essaie
Je sais
juste
pas
de
de quoi tu
regarder
me
les
parles.
choses de. Ben, je regarde la fiche de Toyota, de Toyota, de Mazda. Ça commençait à 30, 39 100 pour la RF.
Oui,
Puis
c'est ça.
on monte jusqu'à 43 200
C'est ça.
pour le modèle qui était. Je pense que c'était le modèle. Ben, c'est le modèle qu'il y avait sur la flotte de presse. Parce que c'est exactement le prix de la voiture que j'avais, qui est 43 200. Puis en tout ça, ben, vous avez différents groupes, boîte manuelle, boîte automatique. Ce qui est intéressant chez Mazda, c'est que qu'on choisisse la boîte manuelle, la boîte automatique, la voiture est le même prix.
Oui.
Il n'y a pas de surcharge pour une voiture, pour une boîte automatique. On charge le même prix. Fait que en autant que c'est le même groupe, puis que peu importe la transmission que vous allez choisir, ben ça va être le même prix. Ça c'est fait que vous choisissez vraiment vos options à l'intérieur. Puis il y a tout à l'intérieur de ça, là. Il y a la navigation, il y a le système de Mazda, donc il y a la navigation, la radio satellite, il y a tout ce que vous pouvez vouloir, le Bluetooth, tout ce qu'il n'y avait pas dans la première fois que j'ai conduit une Mazda MX-5, c'était la radio, un lecteur CD, puis t'avais même pas de Bluetooth pour accorder ton téléphone, puis c'était. Mais c'est une voiture qui, à mon avis, n'avait même pas besoin d'avoir de technologie dedans parce que le trois quarts du temps, la radio est éteinte. Parce que tu
Oui.
vas juste conduire, puis tu vas juste te laisser emporter par la sensation de conduite que tu es en train d'avoir avec la voiture, sans nécessairement étouffer ça avec de la musique et tout ça. C'est sûr que vous allez en promenade avec quelqu'un, peut-être qu'il va vouloir, au lieu d'entendre juste le vent dans ses oreilles, puis rien d'autre, parce que vous parlez pas, d'avoir un peu de musique, là. Mais personnellement, quand je partais avec cette voiture-là seule, la radio était éteinte, puis tout ce que je voulais entendre, c'est le petit grondement du moteur. Puis la RF a un beau son aussi, le moteur. C'est pas. C'est un 4 cylindres, là, mais on a réussi à y donner un beau son en accélération, là, c'est quand même bien. Puis, tu sais, c'est ça qu'on veut entendre. C'est une voiture qui est. C'est le cavalier sa monture, qu'on disait, là,
Ouais.
pour que la
Ouais.
philosophie
Faut
de
que
la
tu me
MX-5, c'est vraiment ça.
le dises en japonais, par exemple.
Non, ça, je peux pas te le dire. Non.
Jimba Itai.
Ouais, c'est ça. Jimba Itai. Ah, fait que c'est ça. Mais non, c'est vraiment une voiture magnifique. À mon avis, c'est une des plus belles voitures. Si on va dans les voitures, ok, je vais mettre des gros guillemets, là, abordables, les voitures que ça te prend pas nécessairement un travail à 300 000-400 000 par année pour être capable de te la payer, là. Dans les voitures abordables, c'est une des plus belles voitures sur la route aujourd'hui.
Non, je suis d'accord.
À
Je
mon
suis d'accord.
avis, là, c'est vraiment. Mazda a fait un travail colossal avec cette voiture-là. Oui, la MX-5 régulière est belle, mais cette voiture-là, ça sort de l'ordinaire. C'est vraiment autre chose. Puis, j'ai toujours rêvé je me suis toujours dit à la retraite, j'irais me chercher une Porsche Cayman, parce qu'à mon avis, c'est une des plus belles des Porsche dans son design, dans sa coupe et tout ça, puis dans son comportement routier. Mais depuis que j'ai essayé ou que j'ai vu la RF, je la trouve plus belle qu'une Cayman, là. Puis je me dirais, Puis probablement que je serais capable de me trouver ça un peu moins cher à la retraite qu'une Porsche Cayman, tu sais. Fait que, la MX-5 RF est en train de prendre le dessus comme voiture de retraite, là. T'sais, la voiture, quand j'ai besoin d'aller travailler puis je vais me promener juste quand je veux, là, ça va me tenter, là.
Ah ben mon Dieu, c'est bien.
Ouais,
c'est bien,
ça. Mais c'est ça. Non, c'est vraiment une merveilleuse, merveilleuse voiture. Fait que si vous avez moyen de vous acheter ce genre de jouet-là, là, allez-en courant, là. Puis dans le... Moi, je l'avais gris... espèce de gris titane, là. Mais dans son rouge Mazda, elle est vraiment super belle. Moi, j'avais gris titane avec un intérieur un peu brun tan, là. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment ma combinaison de couleurs. Mais rouge avec un intérieur brun tan comme ça aurait été magnifique aussi, parce que le rouge Mazda est tellement beau aussi.
Oui, c'est ça. Mais... c'est probablement le plus beau rouge qu'on peut trouver.
Oui, clairement. Mais peut-être à part le rouge Ferrari, qui est un rouge à je sais pas combien de dollars le litre, là, qui coûte une fortune à faire.
Mais ouais, bon. Mais en même temps, tu vois, moi, j'aime mieux le rouge Mazda. Je trouve qu'il y a plus de profondeur. Ça, c'est une question de...
Ouais, c'est vrai que le rouge pompier de Ferrari, c'est un peu... C'est rouge-rouge, tandis que lui, il est rouge un peu plus... ouais, c'est vrai qu'il y a plus de cœur un peu dedans. OK, c'est ça, bon. Exactement. Donc, Marc, si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela?
Ben, ils peuvent le faire en me suivant, bien sûr, sur Facebook. C'est la meilleure façon. Marc Bouchard, ils peuvent aller sur mon blog marcbouchard.ca, sur lequel j'ai été pas mal moins actif récemment, mais je vais m'y remettre. Bien sûr, Twitter, c'est Marc_Bouchard. Instagram, c'est Bouchard_Marc. Et info@saroulradio.com, qui est l'adresse courriel à laquelle toi et moi avons accès.
Exact. Moi, sur Twitter, c'est Ascalazormo. Il y a aussi le compte Twitter de Ça Roule Radio qui est à Ça Roule Radio. La page Facebook Ça Roule Radio qui est aussi à Ça Roule Radio. Sur Instagram, vous pouvez me suivre sur Desormo Luc. À chaque semaine, je mets la photo de la voiture que je conduis. Vous allez vous apercevoir que souvent, la voiture que je conduis, je vais en parler sur l'émission comme des fois une semaine, deux semaines plus tard, parce que à un moment donné, on n'a pas été capable de faire des émissions, fait que je suis en retard dans mes essais, là, mais je mets les photos quand même. Comme cette semaine, je suis au volant du Volvo XC60 version T8, donc la version hybride branchable, qui est à ma foi un véhicule assez intéressant et confortable. Puis en plus, c'est les autres, c'est pas signature qu'ils appellent, mais c'est la version la plus élevée, là. Puis avec le petit levier de vitesse en cristal.
Oui, c'est beau ça. C'est
magnifique. Ouais, c'est vraiment. L'intérieur est magnifique. Puis il y a comme un bois blanc-beige dans le tableau de bord. Là. C'est vraiment joli. Je vous en reparlerai dans une couple de semaines. Là. C'est vraiment, vraiment beau. Donc, c'est ça. Puis sinon, ben, vous pouvez nous télécharger à partir de iTunes et Google Play. Juste à chercher Ça Roule Radio. On est disponible sur saroulradio.com. Vous pouvez télécharger l'émission directement sur votre ordinateur si vous l'écoutez à partir de là. Et puis, on est diffusé sur deux radios web, sportradio.ca et Radio Média Plus. Donc, ça fait le tour pour cette semaine. Mon cher Marc, va te reposer et te débarrasser de ce vilain rhume. Puis, on se dit merci à tout le monde. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde.
Bye bye, bonne semaine.